L'Australie vient d'accueillir pendant 2 jours à Sydney un sommet spécial de l'ASEAN, l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est. L'ASEAN regroupe Brunei, le Cambodge, l'Indonésie, le Laos, la Malaisie, la Birmanie, les Philippines, Singapour, la Thaïlande et le Vietnam. Hugues Tertrais, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, professeur émérite à Paris 1, fondateur du Centre d'Histoire de l'Asie Contemporaine. Première question, à quoi sert concrètement cette association de 10 pays d'Asie du Sud-Est?
Écoutez, c'est une association qui a déjà 50 ans d'âge, puisqu'elle a été fondée en 1967. Et vous venez d'énumérer la liste des pays membres. En fait, ce sont tous les pays qui sont entre la Chine au nord, l'Inde à l'ouest et l'Australie au sud, et qui tous ensemble donc fonctionnent dans cette association régionale qui n'arrête pas de se consolider, enfin qui a survécu à la fin de la guerre froide et qui existe encore, et notamment ici avec l'Australie.
Est-ce qu'on peut dire que cette alliance est dirigée ouvertement contre la Chine?
Non, absolument pas. Elle l'a été. Dans ces 25 premières années, à peu près, les pays qui s'étaient d'abord constitués en association et qui se sont élargis visaient sans doute effectivement là, ce qui était considéré comme une menace chinoise à l'époque. Avec la fin de la guerre froide et le nouveau positionnement de la Chine, je dirais que la Chine a d'assez bonnes relations, j'allais dire excellentes, d'assez bonnes relations avec pratiquement tous les pays de l'ASEAN, refuse plutôt d'une manière générale de discuter avec l'ensemble, préfère la discussion bilatérale, en particulier sur des sujets pointus comme la mer de Chine méridionale, pointus et menaçants pour les équilibres de la région. Et donc les relations sont plutôt bonnes après avoir été effectivement carrément mauvaises.
Les pays de l'ASEAN ne sont donc pas du tout inquiets de la montée en puissance du géant chinois et des appétits grandissants de Pékin?
Je ne dirais quand même pas ça. C'est-à-dire que les pays de l'ASEAN, d'abord, sont très divers, entre le Vietnam, par exemple, les Philippines, voire l'Indonésie, le rapport à la Chine est bien différent. Ce qui est sûr, c'est qu'ils bénéficient de la dynamique de la région eux-mêmes, en termes de croissance économique. Et bien sûr, le poids de la Chine, qui revient après avoir connu un certain effacement, ne peut que les concerner. Si, ils peuvent être inquiets, mais enfin, en même temps, inquiets et participant à cette croissance générale. L'Australie elle-même peut être un petit peu inquiète également. Elle l'a manifesté.
Alors l'Australie, hein, vous en parliez, n'est pas membre de l'ASEAN, mais elle a signé en marge de ce sommet un accord avec plusieurs pays comme l'Indonésie, la Malaisie, Brunei et les Philippines pour mieux lutter contre le terrorisme. Pourquoi les nations de l'ASEAN sont-elles préoccupées aujourd'hui par l'extrémisme religieux?
Ben écoutez, pour des raisons d'ordre général et régional en même temps. Les raisons d'ordre général, on le sait, c'est que les organisations islamistes cherchent des positions de repli que l'Asie du Sud-Est peut en offrir. Il y a en effet de nombreux musulmans dans cette région. On compte sur 600 millions d'habitants de l'ensemble de la région, la moitié environ doit être musulman. Alors, ça ne veut pas dire évidemment islamiste, mais en même temps pouvant abriter la perspective d'une menace. Et effectivement, ceux qui sont le plus près de l'Australie, c'est-à-dire l'Indonésie, c'est comme le troisième pays en superficie et en population de la planète, premier pays musulman en nombre, absolument pas des gens inquiétants, mais il y a quand même eu l'attentat de Bali en 2002, donc il y a des précédents. Et puis c'est surtout aux Philippines actuellement que les choses sont préoccupantes. Surtout aux Philippines, voire dans l'ouest de la région, c'est-à-dire au nord de la Malaisie, qui est très préoccupée par tout ça, entre la Birmanie et l'Inde.
Et pourtant, le président des Philippines, Rodrigo Duterte, n'a pas fait le déplacement à Sydney. Pourquoi, selon vous?
Oui, c'est un petit peu curieux, d'autant plus qu'il a lui-même accueilli l'année dernière le sommet de l'ASEAN, le 31e, je crois. Je pense qu'il doit être dans une situation un petit peu difficile. Alors on a dit qu'il n'est pas venu pour des raisons d'ordre intérieur, c'est-à-dire qu'effectivement il lui-même fait face à une menace intérieure islamiste, donc mais ça ne suffit peut-être pas, ce sont peut-être des relations avec la Chine qui poserait problème, enfin qui
ou est-ce qu'il n'avait pas envie, il n'avait pas envie peut-être d'essuyer des critiques sur son respect très aléatoire des droits de l'homme.
Oui, mais en même temps, bon, il a été en Chine, il a, comment dirais-je, fait amende honorable. Non, il y a un conflit plus important entre la Chine et les Philippines dans la mer de Chine méridionale, qui a donné lieu à un arbitrage de la Cour internationale de La Haye l'année dernière, donnant raison aux Philippines dans un conflit d'ordre de souveraineté en mer de Chine méridionale. Et donc, il y a beaucoup de choses. Il y a effectivement ce problème. Il y a les droits de l'homme, mais ça, les Chinois sont pas nécessairement très sourcilleux sur la question. Et puis, éventuellement, justement, ces questions d'islamisme.
Hugues Tertrais, est-ce que le groupe État islamique, depuis la chute de son califat autoproclamé en Irak et en Syrie, cherche à étendre vraiment son influence en Asie du Sud-Est ?
C'est très possible. En fait, je n'ai pas d'informations très originales là-dessus, personne n'en a beaucoup, mais effectivement, les Philippines, notamment les Philippines méridionales, sur l'île de Mindanao notamment, sont depuis longtemps le terrain d'une révolte de musulmans, voire d'islamistes, contre le pouvoir central. Donc les États-Unis, qui sont une ancienne puissance, une puissance anciennement plutôt protectrice, sinon colonisatrice des Philippines, veille au grain évidemment, l'Australie je pense aussi, mais disons que le sud des Philippines peut être un lieu justement à partir duquel une menace islamiste peut se reconstituer. Il y a eu des combats en 2017 autour d'une petite ville qui s'appelle Marawi, qui a été prise par les islamistes, moins de 200 000 habitants. Certes, ça a occupé, comment dirais-je, plusieurs mois, 2017, mais ce n'est pas fini.
D'après la Malaisie, la propagande en ligne de l'EI pourrait toucher plus de 300 millions de musulmans en Asie du Sud-Est. Est-ce que le danger aujourd'hui, c'est le terrorisme 2.0 avec l'utilisation par exemple du dark web, les messageries cryptées, voire les plateformes de crowdfunding?
C'est le sens en tout cas de cette rencontre de Sydney. C'est-à-dire que c'est effectivement le Premier ministre malaisien Najib Razak a évoqué ce chiffre de 300 millions de musulmans, c'est ce que je vous disais aussi, sur 600 millions d'habitants, la moitié est musulman, essentiellement en Indonésie, accessoirement en Malaisie et aux Philippines. Et donc, ces gens-là ne sont pas en eux-mêmes une menace, mais ils pourraient abriter effectivement, malgré eux, des éléments d'une menace. Et les méthodes que l'on connaît ou que l'on a expérimentées en Europe, utilisant l'Internet et tout, des dirigeants islamistes, laissent penser qu'en effet, Najib Razak, de ce point de vue-là, est assez fondé à en parler, que cette menace peut concerner tout le monde dans une région où l'Internet connaît une croissance considérable.
Et, voilà. Merci beaucoup Hugues Tertrais. Je rappelle que vous êtes l'auteur de L'Asie-Pacifique au XXe siècle, paru chez Armand Collin.